Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Et je salue mes deux chroniqueurs. Bonsoir Naïma M. Fadel.
Bonsoir.
Ravi de vous recevoir ici sur le plateau d'Europe 1. Vous êtes essayiste. Bonsoir Joseph Mascaron.
Bonsoir.
J'ai lu nombre de vos livres. Je suis un peu impressionné de vous avoir en face de moi.
Une chose.
Voilà. Et nous allons parler de l'actualité. Nous allons recevoir quelqu'un qui a la peur au ventre. Et ce monsieur est directeur d'école à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Il a décidé de pas aller travailler et avant de l'inviter et de lui parler au téléphone, je vous propose d'écouter une partie de son enregistrement vidéo qu'il a publié sur les réseaux sociaux ce matin.
Nous sommes lundi matin et pourtant je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible, parce que j'ai souhaité m'engager dans le projet ministériel porté par l'actuel Premier ministre d'expérimentation de la tenue commune. Un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne qui est farouchement opposé me cible, m'insulte de la pire des façons, m'expose lâchement, dangereusement, en distribuant des tracts dans la cité, dans tout le quartier, des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené, on connaît déjà plusieurs histoires malheureuses, donc je ne veux pas aller travailler, je ne veux pas aller exposer mes élèves à des risques qui pourraient être immenses, qui pourraient être inconsidérés si je le faisais. Et puis je ne tiens pas non plus à m'exposer moi-même.
Bonsoir Nicolas Bourrez.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Alors cette vidéo, elle a été postée, j'imagine, ce matin de bonne heure, alors que vous deviez vous rendre dans votre école. Finalement, vous avez décidé de ne pas y aller. D'abord, est-ce que vous avez des regrets? Et surtout, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de lundi sans aller dans votre école que vous aimez tant?
Alors, je n'ai pas de regrets. Je l'ai posté volontairement à l'horaire à laquelle j'arrive généralement à l'école, donc vers 8h-10, 8h-5. Et cette journée, bon, bien entendu, particulière pour moi. Mais j'espère que le premier objectif est atteint, c'est-à-dire que les élèves et mes collègues, les enseignants, ont pu travailler en toute sécurité aujourd'hui.
Oui. Est-ce que vous avez des retours sur la sécurité à l'école, justement, comment s'est passée cette journée, autrement ou de manière générale, comme d'habitude?
Aujourd'hui, j'ai très peu de retours parce que j'ai été énormément sollicité par des journalistes et donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour communiquer avec mon école. Mais a priori, il n'y a pas eu de problème de signaler.
Tout commence par l'expérimentation de l'uniforme, en fait.
Tout à fait.
Et donc, vous avez voulu suivre cette expérimentation qui est en ce moment encore au stade embryonnaire. Et comment est-ce que se sont déroulées les différentes étapes de cette expérimentation jusqu'à cette situation qui devient insupportable, puisque vous en venez au fait de ne plus aller dans votre école?
Alors, pour le coup, l'expérimentation, elle n'a pas lieu encore. Là, c'était la phase de décision et elle est prévue, donc, puisque ça a été favorablement acté par le conseil d'école. Elle est prévue, donc l'expérimentation, à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée.
Donc là, on est au stade où on prend des décisions, et même à ce stade-là, donc c'est même plus embryonnaire, là, on en est vraiment au stade de l'invention de la chose, si j'allais dire. Et en fait, même à ce stade-là, vous retrouvez pris en tenaille avec des gens qui vous insultent, tout simplement.
Tout à fait, qui m'insultent et qui me mettent en danger surtout, parce qu'on sait très bien que extrémistes et obsession anti-musulmans, c'est mettre une cible dans le dos de la personne qu'on affiche avec ces termes-là, quoi. Donc là, c'est extrêmement grave. La décision, elle a été actée majoritairement. On a concerté l'intégralité de la communauté éducative et a priori, un groupuscule, je ne sais pas qui se cache derrière, n'accepte pas la décision majoritaire.
Naïma M. Fadel, ça vous fait réagir?
Bah écoutez, oui, ça me fait réagir parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, parce que pour rien vous cacher, je pense que c'est un directeur d'école primaire, donc on est en école primaire, et monsieur, je ne vois pas en quoi c'est anti-musulman que des enfants portent un uniforme. D'ailleurs, dans des pays musulmans, par exemple, c'est pas toujours l'uniforme, mais c'est par exemple la blouse. Donc je ne sais pas qui se cache en fait derrière ce collectif. Donc je m'interroge parce que quand il y a eu la circulaire contre la abaya en septembre 2023, la rentrée de septembre 2023, rappelons que la rentrée scolaire c'est 12 millions d'élèves. Vous avez seulement 298 élèves jeunes filles qui se sont présentées en abaya et seulement 67 qui ont refusé de la retirer. Donc moi je m'interroge sur ce collectif. Je trouve que c'est extrêmement grave parce que ce directeur, il ne fait que faire ce que demande la République, notamment notre gouvernement. Donc ça veut dire que certains osent menacer dans notre pays et je trouve ça extrêmement inquiétant. En tout cas, monsieur, vous avez tout mon soutien, si je peux me permettre. En tout cas, mon modeste soutien.
Merci beaucoup.
Nicolas Bourrez, sur ce que vient de dire Naïma, est-ce que vous avez essayé d'en savoir plus sur ce groupuscule, sur cette petite quantité de gens finalement qui essayent d'entraîner d'autres en fait sur ce problème?
Alors après, moi j'ai déposé plainte, hein, donc du coup je peux pas trop parler de ça. J'ai donné quelques noms qui éventuellement pourront alimenter les investigations de la police, mais de manière tout à fait certaine, non, je ne peux pas dire qui se cache derrière ce groupuscule. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un projet qui est porté par le Premier ministre, qui a été également souhaité par le Président de la République. Nous, on est dans une école, donc on est là pour respecter les directives. Et voilà, quoi. C'est pas moi qui ai décidé, en fait. On a fait voter tout le monde.
Merci de votre témoignage, Nicolas Bourrez. Merci d'avoir été avec nous. Et encore une fois, au nom de toute la rédaction d'Europe 1, vous avez tout notre soutien. Joseph Massescaron, qu'est-ce que vous pensez de ce cas d'école, j'allais dire, sans de mauvais jeu de mots?
Cas d'école, oui. Je trouve que c'est révélateur au sens chimique du terme d'un grand nombre de dysfonctionnements et d'un grand nombre de problèmes. D'abord, un aparté sur le titre de ce fameux et fumeux collectif qui s'est autonomé Collectif de défense de l'école publique. Quand on dit, vous parlez qu'il s'agisse de défense de l'école publique, là, on est dans le langage orwellien. C'est le langage orwellien, je rappelle, 1984, c'est quand on donne l'inversion du réel, l'inversion de ce qui est. Là, évidemment, ils défendent tout, sauf, bien sûr, l'école publique, et ils se présentent comme collectif défense de l'école publique. C'est révélateur, et c'est là où ça devrait justement donner une piste, parce que il y a une formation politique qui est devenue spécialiste de ce genre d'inversion justement des propos, c'est les personnes autour de la France insoumise. Ouais. Alors je ne dis pas que c'est la France insoumise, puisque tout de suite, voyant évidemment la part devant l'indignation publique et légitime par rapport au sort qui est fait à M. Bourret, Thomas Porte, qui est le député de cette circonscription, a fait machine arrière. Ouais. Mais on voit bien ce type de méthode. Alors, ce type de méthode, ne nous trompons pas, ce n'est pas du tout un délire que de penser que on met en danger la vie d'une personne. Et je dis ça pas simplement parce qu'il y a eu le cas de tragique, terrible de Samuel Paty. Je dis ça parce qu'il faut bien reprendre il faut bien situer le contexte. Si le contexte, c'est Neuilly-sur-Marne. Ouais. C'est une municipalité où il y a eu, je rappelle, en juillet dernier, des émeutes particulièrement violentes. Donc, qui n'ont pas été, le feu n'est pas éteint. Le feu n'est pas du tout éteint. C'est un terreau de violence. Donc, on essaye là aussi d'exploiter un terreau de violence. Et quand je prends cette exploitation cynique du terreau de violence plus l'inversion des valeurs, à mon avis, c'est signé.
Mais tout à l'heure, on parlait de Sciences Po et on écoutait un jeune étudiant qui disait « Moi, j'aimerais bien bosser, j'aimerais bien avoir mon diplôme, etc. » Donc, en fait, on se retrouve dans une situation totalement cosmique où on a un directeur d'école qui a peur d'aller à son école, où on a un terreau, vous avez dit, de violence, où on a des élèves qui sont plus ou moins radicalisés, en tout cas entraînés par des mauvais garnements et qui, en gros, fichent la pagaille. Et puis, vous avez quand même accessoirement des élèves qui voudraient aller à l'école, apprendre à lire, à compter et éventuellement à devenir quelqu'un.
Tout à fait.
Naïma Fadel.
J'allais revenir sur Sciences Po en vous disant que nous avons quand même des députés, des représentants de la République qui instrumentalisent tout ça. C'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils sont censés justement encourager ces élèves, faire en sorte que ça se passe pour que la majorité silencieuse puisse étudier dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, au contraire, ils soufflent sur les braises et ils les amènent à ce qu'une minorité, parce que tout à l'heure on en parlait avec Joseph, c'est une petite minorité à Sciences Po. Hein. C'est pour ça que je regrette qu'on jette l'anathème, entre guillemets, sur l'ensemble des étudiants qui, comme ce jeune homme qui a témoigné chez Pascal Pro, ne demande qu'à travailler, et c'est qu'on jette l'anathème sur la majorité par une petite minorité. Et ce qui est terrible dans la situation qu'on vit dans notre pays, et que personne ne rappelle à l'ordre, et notamment la ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas rappelé à l'ordre, et le directeur a capitulé. C'est ça qui est terrifiant.
Comment est-ce que vous expliquez cette situation?
Mais écoutez, l'idéologie. Je pense que vraiment il y a une idéologie qui est aujourd'hui colonise.
On se met à plat devant.
On se met à plat, on capitule face à une quarantaine de jeunes qui ont bloqué l'université et quelques énergumènes à l'extérieur qui ont été rejoints par Révolution Permanente et les groupuscules liés à LFI. Je trouve ça dramatique pour notre pays et je trouve ça dramatique pour l'autorité.
Puisque c'est généralisé et là en l'occurrence avec cette école.
On a donné un très très mauvais signal en capitulant
on donne avec des mauvaises idées.
Voilà. Ça s'appelle Joseph Manasseskaron. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, l'administration Biden justement sanctionne à Columbia, sanctionne dans d'autres universités américaines toutes les dérives. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est hier, c'est le communiqué du Hamas. Qu'est-ce que dit en substance le communiqué du Hamas? Il s'insurge. Quel scandale contre le sort réservé aux étudiants pro-palestiniens dans les universités américaines. Et en revanche, évidemment, il trouve que ce qui est fait dans les universités françaises est très bien. Le Hamas. Le Hamas. Donc, le Hamas soutient l'action de LFI, c'est normal. LFI soutient l'action du Hamas puisque LFI est devenue la branche politique du Hamas.
Mais aujourd'hui, même en disant ça, est-ce que c'est un marqueur? C'est-à-dire que vous allez convaincre qui? Moi, vous allez me convaincre en me disant que c'était insupportable, et sans doute les gens qui nous écoutent sur Europe 1, et puis d'autres qui sont là en train de manifester, c'est les mêmes là qui sont allés aujourd'hui à la Sorbonne, vont être encore plus entraînés, encore plus pris dans cette inertie, dans cet engrenage absolument infernal, pour continuer. Et je le disais tout à l'heure à Georges Fenech et à Paul Melun, et je citais le Christ en disant est-ce que seulement ils savent ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Est-ce qu'ils sont totalement conscients de ce qu'ils font?
Ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est une minorité qui veut Joseph absolument Manasseskaron. Le chaos, parce qu'ils savent très bien que sociologiquement, du point de vue électoral, ils ne seront jamais majoritaires, jamais, jamais, ils ne sont pas majoritaires.
Donc ils surfent sur la vague, en fait.
Ni dans les esprits, ni dans les urnes, ils ne sont pas majoritaires, et la seule chose qu'ils veulent, évidemment, c'est introduire le chaos.
Exactement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et les filles, ce qu'ils veulent, c'est le chaos, c'est la révolution. D'ailleurs, rappelez-vous, pendant les émeutes de juin 2023, ils n'ont pas rappelé au calme. Au contraire, ils ont appelé à ce qu'il y ait encore plus d'émeutes. Et ils ont même parlé à la place des émeutiers en laissant penser que c'était pour soutenir Naël, alors que 70% des jeunes qui ont été arrêtés d'ailleurs ne savaient même pas qui était Naël, si je puis dire. Oui. En fait, ce qui me gêne, je vais vous dire les choses.
C'est ce qu'a dit Éric Nolot dans son livre sur Mélenchon.
Totalement.
Il dit qu'en fait, LFI et Jean-Luc Mélenchon en premier n'en a que faire de ce qui se passe au Proche-Orient. Tout ce qu'il veut, c'est l'électoralisme et gagner la prochaine présidentielle.
J'ai eu un jour une longue conversation, un tête-à-tête chez moi, avec Jean-Luc Mélenchon.
Et il y a longtemps
c'était, Oui, c'était longtemps, c'était juste après...
Sinon, il y a un scoop.
Non, c'était juste après c'est un peu après son échec, et déjà il se demandait s'il allait se représenter à la présidentielle. Il s'est en effet représenté. Bien. Et il sait très bien, au terme de cette conversation, il apparaissait vraiment très bien, qu'il sait, en dépit de tout la vulgate sur le thème « j'ai perdu à 100 000 voix près, 200 000 voix, 300 000 voix », il sait très bien qu'il n'est pas majoritaire dans le pays, il le sait. Mais ce qu'il veut, et c'est ce qu'il m'a dit plusieurs fois, c'est qu'il veut écrire une page définitive dans l'histoire de la gauche française.
Et pour ça, il est prêt à tout.
Et pour ça, je pense qu'il est prêt à tout.
Y compris à marabouter des étudiants de la Sorbonne, de Sciences Po et d'autres universités de France.
Ça ne le dérange absolument pas. Vous savez, C'est-à-dire qu'il revient à ses premières amours, c'est-à-dire à ses amours trotskistes. Et encore, dans le trotskisme, pardonnez-moi, je fais une différence, c'est-à-dire il vient de la branche du trotskisme le plus dur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lambertiste, qui a été fondé par Pierre Lambert. Voilà. Donc, il revient tout simplement à ses premiers amours.